de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de 30 minutes sur le cinéma, une émission qui peut vous aider à choisir les films à aller voir en salle, puisque nous avons des chroniques, mais vous avez aussi eh bien, l'occasion de jouer avec nous, puisque nous proposons des blind tests. Et aujourd'hui, c'est un blind test spécial Noël, avec des films qui ont Noël dans le titre. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Eh bien, c'est parce que vous, messieurs, vous avez chacun un film avec Noël dans le titre. Et toi, Guillaume, tu t'es plutôt dévoué pour le film familial.
Oui, c'est un film très mignon qui s'appelle Le Noël de Teddy l'ourson. Mais pour les petits, mais aussi des grands, je vous parlerai aussi de Beetle 64.
Et puis toi, Manu, c'est un film qui n'est pas forcément pour la famille.
Hein. Non, plutôt un film indépendant et qui s'appelle Noël à Miller's Point. Et puis je vous parlerai aussi de Vingt Dieux.
Et puis toi, Sophia, tu nous ramènes un film de Cannes.
Oui, Les Femmes au balcon, donc une toute autre ambiance caniculaire à Marseille.
Avec un film de Noémie Merlant.
Tout à fait.
Mais nous allons commencer avec le portrait d'un jeune paysan orphelin en galère, c'est Vingt Dieux.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
T'attends ?
Nickel.
8h45.
Oh, vous partirez quelle heure déjà ?
8h30.
Présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, Vingt Dieux a reçu un accueil très favorable qui se poursuit aujourd'hui par une presse enthousiaste sous le charme donc du premier long métrage de Louise Courvoisier. Alors, ce qui est en partie mérité, la cinéaste avait le désir, tout comme récemment Lucie Prost avec Fario, situé aux alentours de Besançon, de filmer un territoire, celui dans lequel elle a grandi, le Jura, et de dresser un état des lieux spatial et temporel en racontant par voie détournée sa propre jeunesse à travers des personnages fictifs. Ces personnages sont pourtant d'une authenticité très forte, rappelant un peu la petite bande de la vie de Jésus, tout en ayant une identité singulière. Dès le début, on y fait la connaissance de Toton, qui, dans une fête locale, n'hésite pas à se mettre nu ou à nu, encouragé par ses potes bourrés chantant une chanson paillarde du cru. Alors l'ambiance est posée, on ne quittera plus Toton, qui passe son temps à picoler, à écumer les bals de village avec ses copains, mais la réalité le rattrape, son père, sous l'emprise de l'alcool, décède dans un accident de voiture. Il doit donc s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il décide, et là ça ne s'invente pas, surtout dans l'autre pays du fromage, là qui n'est pas la Hollande, de fabriquer le meilleur comté de la région, celui pour lequel il remporterait la médaille du concours agricole et surtout il percevrait la modique somme de 30 000 euros. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, déjà parce que faire du fromage, c'est un métier qui ne s'improvise pas.
Anthony, c'est ça ?
Toton.
Tu sais conduire un camion ?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
C'est toi le nouveau ?
Oui.
T'es en retard ! Allez, grouille ! Faut pas que ça va foutre !
Adieu ! T'es pas doué, toi ?
T'habites tout seul ? Avec ma sœur.
Alors ?
Ce qui démarrait comme un drame social âpre dans une veine doloriste limite glauque se transforme assez brutalement, au risque de perturber certains spectateurs, en un teen movie plus comique que tragique. Une ode à la débrouille et à la solidarité qui évoque davantage l'excellent Super Bourré ou encore le classique Stand By Me par la finesse d'une écriture précise que l'univers trash de Bruno Dumont. L'expérience étrange est marquée par une rupture de ton radicale, comme si la réalisatrice avait décidé de faire un autre film en cours de route. Cette césure volontaire, qui n'est pas sans déséquilibrer le film, lui apporte aussi sa profonde originalité.
Quoi ? Tu fous, c'est quoi ce truc d'Obélix là ? Je veux faire du fromage. Si je me fais le côté d'or, je te le place 30 000 balles, mon gars.
Tu vas jamais la gagner, la médaille Toton.
Pourquoi ?
Adieu.
Pourquoi que tu veux te lancer là-dedans, toi ?
C'était le métier de mon père, il a claqué, alors... Puis je sais pas quoi faire d'autre.
Pardon, Toton.
Fais chier !
Thérèse.
Bah, c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça.
Alors, vin dieu, hein, qui est aussi une expression typiquement franc-comtoise, hein, qui veut dire un peu, bah, ça peut être sacre bleu, merde, enfin ce qu'on veut. Hein, Donc, le film démarre comme un lendemain de gueule de bois et se poursuit comme une lente remontée euphorique, semée d'embûches et de situations cocasses, emmenée par des jeunes comédiens désarmants de naturel et une mise en scène énergique. Voilà, un petit film frais et plein de charme qui ne cesse de surprendre et qui pourrait bien devenir un franc succès en salle.
Toi, tu l'as vu à Cannes, tu peux peut-être
oui.
en parler.
Mais j'ai beaucoup apprécié aussi ce film, Coming of Age rural, avec des vraiment des acteurs que j'ai trouvé remarquables de sensibilité, d'authenticité. Et les liens sont aussi très bien travaillés. La relation qu'a Totten avec sa petite sœur notamment m'a beaucoup touchée. Donc c'est un très joli film que je recommande également.
Mais c'est étrange, la rupture de ton. Parce qu'on s'attend à un film très, très sombre et devient plutôt solaire en fin de compte.
Tout à fait, très lumineux. Ouais.
C'est un film à voir donc, dans les salles depuis le 11 décembre, Vin dieu. Gore, fantastique, comédie, drame, tout y passe. Après Laetitia Dosch, Céline Salette, Ariane Labed, c'est Noémie Merlant, actrice, qui présentait son film à Cannes, Les femmes au balcon.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ruby! Ruby!
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Pour son deuxième long-métrage, Noémie Merlant nous embarque dans une comédie d'horreur féministe qui brouille les genres à travers une fable aussi gore que délirante. Un petit bijou de l'édition cannoise 2024, à mon sens, et pour certains, certaines, le meilleur film de l'année. Non mais oui, rien que ça. Alors, présenté en séance de minuit, ce cadre idéal pour les propositions les plus graphiques et débridées du festival, le film a suscité rires, cris d'effroi et applaudissements dans une salle en totale communion avec l'équipe, composée de Luca Bravo, Suela Yacoub, Sanda Kodrehanu, donc ses co-acteurs et co-actrices, ainsi que Céline Sciamma, la co-scénariste du film. Sciamma, avec qui Merlant avait collaboré sur Portrait de la jeune fille en feu, Queer Palm et prix du scénario à Cannes en 2019. Bon pari donc que de faire appel à elle pour signer un scénario féministe, engagé et libérateur, mêlant humour noir et une forme de violence cathartique parfaitement assumée.
Élise, respire avec moi. C'est comme une vague.
Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder.
Hey, c'est des seuls les gars, hein.
On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non?
Tous les jours, il est à sa fenêtre.
Sublime.
Mystérieux.
Il a envoyé un message.
Venez boire un verre à la maison, oui.
Non.
Ah non.
Si.
Wow.
Ah, les filles, entrez.
Trois femmes, trois amies, Ruby, Élise et Nicole, se retrouvent à cohabiter dans l'effervescence d'un appartement marseillais en plein été caniculaire. Depuis leur balcon, elles découvrent et observent un mystérieux voisin dans l'immeuble d'en face qui se mue rapidement en boy next door, objet de tous leurs fantasmes. Ce female gaze a quelque chose d'évidemment très rafraîchissant. Chacune des protagonistes semble camper dans un rôle qui peut paraître un poil caricatural, même si cela participe évidemment au ressort comique. Alors on a Nicole, qui est incarnée par Sanda Kodrehanu, hein, qui est une écrivaine rêveuse, un peu coincée, en galère d'inspiration, c'est la première à fantasmer sur le voisin. Sa coloc Ruby, Suela Yacoub, pétillante cam girl décomplexée, établit la première le contact avec lui, mais en fait malheureusement les frais. Quant à Élise, Noémie Merlant, elle semble échouer dans la coloc pour fuir son mariage et un tournage où elle incarne Marilyn Monroe pour un biopic, trêve de poupoupidou pour enfin relâcher les corps et libérer les esprits. La référence autobiographique à l'expérience personnelle de Noémie Merlant est claire, hein, puisque la réalisatrice confesse avoir elle-même vécu une situation similaire. Claquant elle aussi la porte de son domicile conjugal, elle confie, je cite, « Chez Sanda, on vivait avec plusieurs copines et on formait une sorte de cocon, un gynécée dans lequel je me sentais extrêmement bien. On était juste après la période MeToo, donc on avait des échanges hyper forts là-dessus. »
C'est de ma faute. On aurait dû rester, on n'aurait pas dû le laisser.
C'est pas ta faute. C'est de la légitime défense.
L'image, les couleurs et costumes participent à créer un univers chaleureux et fantasque qui inscrit clairement cette œuvre joyeusement protéiforme dans la fable, par-delà la multitude des genres qu'elle traverse. horreur et fantastique se côtoient ou s'entrechoquent? S'agit-il d'un revenge movie à la Coralie Farja ou d'un film néo-noir d'inspiration lynchienne? Une comédie sororale, un manifeste féministe post-MeToo? Difficile à dire tant le kaléidoscope de genre revêt de facettes colorées et d'inspiration. D'Almodovar aux 8 femmes d'Ozon, La Facture n'en est pas moins personnel. Ce mélange outrancier, débraillé à grand renfort de topless, hein, est à l'image de la pluralité de femmes qu'il dépeint, comme pour donner autant de définitions du féminin qu'il est possible d'en représenter. Et ce portrait de jeunes femmes en feu dépeint également avec une touche franche ce qui leur nuit, l'oppression patriarcale. Alors que la farce punk développée par Merlan frôle souvent le mauvais goût avec des éléments visuels et narratifs grotesques, les partis pris sont suffisamment judicieux pour faire rire déjà, c'est pas mal, faire réfléchir et séduire ensuite entre angoisse et sensualité dans une grande ode à la liberté dont se saisit aussi bien Noémie Merlan sur le plan de l'acting que dans la réalisation. Bon, cela dit, la main s'alourdit à mesure que le film dénonce le patriarcat et ses spectres au sens littéral et figuré. Et voilà, cette dénonciation se fait un petit peu à la truelle, ce qui ne sera pas du goût de tout le monde. Âme délicate en quête de subtilité, passez votre chemin. Ben, pour les autres, comme le dit le personnage de blogueuse fictive de Virginie Despentes dans Cher Connard, être féministe avec Audrey Lorde, ce n'est pas être féministe avec Mackinnon, il faut dire avec qui. Merlan, elle, semble opter pour l'école de Valérie Solanas, un petit air de scum manifesto résonne dans Les Femmes au balcon, où la libération des protagonistes s'accompagne d'un rejet très frontal du patriarcat. Face à l'oppresseur, c'est l'émasculation ou la mort, ou ici, carrément, l'émasculation et la mort. Étrangement jubilatoire.
Voilà, donc on l'a compris, tu es très enthousiaste pour ce film Les Femmes au balcon, et c'est vrai que j'ai vu des avis un peu plus nuancés dans la presse, mais par qui c'était écrit, peut-être des hommes, on ne sait pas.
Qui sait ?
Eh oui, Les Femmes au balcon, donc au cinéma depuis le 11 décembre. Oh, qu'il est mignon cet ourson, mais pour qui sera-t-il ? Nous parlons de Le Noël de Teddy l'ourson.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Dans un petit village, une petite fille nommée Marianne et sa famille se préparent à célébrer Noël.
Un sou pour un tirage, prenez votre numéro.
Mais cette année, elle va vivre une histoire extraordinaire.
Elle t'a repéré.
La réalisatrice Andrea Eckerborn et son co-scénariste Harald Rosenlo Egg aiment Noël. Alors les amateurs de fêtes de fin d'année colorées, bon enfant et pleines de neige ne leur en voudront pas. Et ça tombe bien cette fin d'année puisqu'après Le Mystère de Noël sorti en 2019, voici Le Noël de Teddy l'ourson. Alors cette fois, il n'est pas question d'un petit village où tout le monde a oublié la fête de Noël et qui va voir une petite fille se battre pour qu'il ait lieu, mais au contraire d'un peu trop de personnes qui souhaitent fêter Noël de la même manière, à savoir avec un petit ourson en peluche nommé Teddy. Seulement voilà, est-ce que quelqu'un sait ce que veut Teddy, le principal intéressé ?
Maman ! Ce nounours, c'est la peluche la plus mignonne que j'ai vue de toute ma vie. Et je sais qu'il est vivant.
Je mérite des horizons plus vastes. Donc, la personne qui me gagnera à la loterie doit être riche.
N'oublie pas que tu es une peluche avant toute chose.
Un numéro, s'il vous plaît. Où est l'ourson peluche ?
Quelqu'un vient de gagner.
Hein ? Quelqu'un d'autre ?
Teddy est un ours en peluche qui peut parler. Marianne, une petite fille qui s'apprête à fêter Noël en famille, sera en ville pour acheter une amande qui sera disposée à côté du sapin, mais est attirée par ce que le marché de Noël a à proposer. Alors au milieu des échoppes de nourriture, il y a un stand de foire où on peut gagner divers lots si on fait tourner une roue et qu'elle s'arrête sur le bon chiffre. Alors fascinée au premier regard par le petit ourson posé sur une étagère, elle parvient à faire le bon score, mais c'était sans compter le fameux Teddy qui bouge ni vu ni connu la roue dans le dos du tenancier du stand parce qu'il veut aller avec quelqu'un qui a plus d'argent qu'elle. Alors à court d'argent justement, Marianne rentre chez elle pour récupérer une autre pièce à rejouer, mais avant qu'elle puisse revenir, un homme gagne Teddy. Alors elle va dès lors essayer de retrouver l'homme et va enchaîner les péripéties et les bourdes qui vont lui faire comprendre ce qu'est le vrai esprit de Noël. En parallèle, l'ourson va lui comprendre que les apparences sont parfois trompeuses et que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors ce conte nordique en provenance de Norvège est une adaptation de l'œuvre de Alf Prolsen, auteur pour enfants extrêmement populaire dans son pays et dont plusieurs de ses créations comme Madame Pepperpot, dans les années 80, nous sommes parvenus. Alors, Le Noël de Teddy l'ourson a une ambition pédagogique et morale sur la magie de Noël et l'importance symbolique de cette fête qui rassemble les familles, mais aussi les hommes et les femmes de bonne volonté, comme on dit à la fin de Batman le défi. Alors, focalisée sur son envie d'avoir cet ourson en peluche, la petite fille en oublie sa bonne éducation et va se rendre compte trop tard qu'elle va trop loin, par exemple en pénétrant chez des gens pour voler le paquet qu'elle soupçonne être celui dans lequel Teddy a été emballé. Marianne voit des choses partout, des écureuils dans le sapin ou des choses qu'elle seule voit, hein, ce qui fatigue son entourage et plus particulièrement son père, bah, qui aimerait la voir grandir. Elle voit des choses vivantes car elle ressent très profondément les choses du haut de sa grande sensibilité et aussi bah, parce qu'elle est très réceptive au grand moment qu'est Noël qui est en approche.
Putain, il y a Teddy, c'est sûr. Il faut que je le récupère maintenant.
La petite fille du marché de Noël, c'est avec elle que je dois vivre.
Découvrez l'histoire magique de Teddy, l'ours en peluche, et de Marianne, et vivez une aventure inoubliable.
Et donc cette particularité de Teddy, hein, bah, c'est qu'il n'y a pas que la petite héroïne du récit qui va apprendre une leçon importante et bien sentie sur la vie, bah, il y a aussi ce fameux Teddy. Hein. Donc l'ourson hein, n'est pas qu'une simple peluche qui cherche à être adoptée, il cherche à voyager, hein, ce qui induit un propriétaire riche qui pourra l'amener aux quatre coins du monde. Alors il truque hein, le jeu du forain pour être pris par quelqu'un qui a l'air aisé, aux dépens de notre petite héroïne qu'il avait gagné avant qu'il ne change de résultat, hein, comme on l'avait dit. Teddy va découvrir lors de ses pérégrinations qu'il est un nounours fait pour faire des câlins et apporter du beau. Une tâche, ben oui, bien plus importante que ce qu'il pensait à la base, et surtout la tâche pour laquelle il va exceller pour le plus grand bonheur des enfants. Et puis il y a le petit frère, un garçon en pleine crise existentielle, car il se demande si le Père Noël ne serait pas une invention de ses parents, et il va tout faire pour découvrir la vérité sous peine de transformer Noël en enfer cette année. Décidément, ben, les parents norvégiens vont avoir beaucoup de pain sur la planche, hein, surtout pour faire comprendre à toute cette smala hein, que la morale est qu'offrir un présent est bien plus riche et important que d'en recevoir un. Bah, ce qui prendra tout son sens quand les différents protagonistes auront compris bah, qu'il ne faut pas être égoïste, hein, surtout en cette période de l'année. Alors c'est un beau message, hein, en conclusion, d'un ensemble bah, ressemblant plus à un téléfilm diffusé sur M6 bah, qu'un grand conte cinématographique hein, à la Pôle Express de Robert Zemeckis, mais qui a le mérite bah, de faire découvrir des films issus de la Norvège. Bah, rien que pour le voyage en traîneau de Rennes, bah, on se dit que bah, ça va être un joyeux Noël.
Et bien voilà, et donc c'est effectivement dans les salles de cinéma depuis le 11 décembre. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test. Il va falloir découvrir 5 films avec le mot Noël. Dans le titre, il y aura du facile et puis du moins facile. Premier extrait.
Joyeux Noël, mon oncle. Que Dieu vous garde.
Baliverne.
Noël, une baliverne? Voyons, mon oncle.
Joyeux Noël. Quelle raison avez-vous de vous réjouir, pauvre comme vous êtes?
Quel droit avez-vous de vous attrister, riche comme vous êtes?
Baliverne!
Ne soyez pas fâché, mon oncle.
Comment ne le serais-je pas, alors que je vis dans ce monde de fous qui est le nôtre? Joyeux Noël. Qu'est-ce que Noël pour vous, sinon l'époque d'un surplus de factures à payer? Un jour où vous vous trouvez plus âgé d'une année sans en être pour autant enrichi? Si j'en avais le pouvoir, et si ça ne tenait qu'à moi, tous les imbéciles qui n'ont que les mots de Joyeux Noël à la bouche seraient mis à bouillir avec leur pudding. Et on leur planterait une branche de houx dans le cœur.
Mon oncle!
Mon neveu!
Il n'aime pas Noël. Et c'est trouvé.
C'est normal, c'est Ebenezer Scrooge qui n'aime pas Noël. Hein. C'est donc l'adaptation du conte de Charles Dickens par Robert Zemeckis. C'est le drôle Noël de Scrooge.
Oui, film de 2009. Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares marchands de Londres. Et le jour qu'il déteste le plus, c'est celui de Noël. Mais les blessures oubliées, les regrets profondément enfouis vont ressurgir et le faire changer. 1,3 million de spectateurs en France pour ce film. Deuxième extrait de ce blind test avec le mot Noël dans le titre.
Ah oui, tu veux vraiment pas rester seul avec moi ce soir?
Ça n'a rien à voir, chérie.
Mais pourquoi tu suis les recommandations du curé? C'est nouveau, ce côté bigot. Pourquoi tu veux inviter un vieux chez nous? J'ai pas du tout envie de passer ma soirée avec un vieux.
En écoutant le prêtre, j'ai tout de suite pensé à maman. Je me suis dit que si jamais elle avait fini sa vie toute seule, j'aurais adoré qu'une famille l'accueille le soir de Noël. Pas toi?
Ah si, il y a certains Noël, j'aurais adoré qu'une autre famille l'accueille. Non mais je plaisante, pardon.
Recevoir quelqu'un qui a plus de famille, c'est une belle idée, non?
Mais je vais pas te dire non, je serai un monstre.
Donc t'es d'accord?
Disons que je ne peux plus être en désaccord.
Alors, Emmanuel De Vos.
C'est Emmanuel De Vos, là-bas.
Oui,
même.
Et Franck Dubosc qui donne la réplique pour une comédie. Hein, film de 2023, très récent, 200 000 entrées en France. C'était Noël joyeux. Alors Vincent, donc Franck Dubosc, aime Noël par-dessus tout, mais quand ses enfants annulent leur venue, eh bien il ne veut surtout pas passer le Noël seul avec sa femme. Et c'est pourquoi, sur le conseil donc du curé, il va choisir d'inviter une personne âgée, sa meilleure amie, à les rejoindre durant le réveillon. Mais rien va ne se passer, effectivement, comme prévu. Troisième extrait de ce blind test spécial Noël. Il faut trouver un titre avec Noël dans le titre.
J'ai entendu hier soir au sujet de votre femme. Et si vous voulez... Je peux faire passer du courrier pour elle.
Pourquoi feriez-vous ça? Si vous vous faites prendre.
C'est pas votre courrier qui nous empêchera de gagner la guerre. Et puis, quand nous aurons pris Paris et tout ça sera fini, eh bien, vous nous inviterez à boire un verre rue Vavin ?
Vous sentir obligé d'envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez.
Alors, ça a été trouvé.
Oui, c'est Joyeux Noël de Christian Carion. Une très belle histoire, pour le coup, vraie.
Film de 2005. Et durant la Première Guerre mondiale, des soldats de différentes sections se réunissent pour une pause pacifique à la veille de Noël, offrant des images fortes de fraternité au milieu du chaos avec Diane Kruger, Guillaume Canet et Daniel Brühl. Et on écoutait ces deux derniers. 1,9 million d'entrées en France pour ce film. Alors là, c'est peut-être moins facile.
Ça ne fâche pas.
Mais si tu te fâches. C'est un foutu caractère, tu sais. Et il veut te photographier, c'est gentil, non? Pascal!
Mais qu'est-ce qu'il lui prend?
Laisse tomber.
Tu veux que je te dise? Il a besoin d'une bonne claque sur son cul. C'est ça qu'il a.
J'ai dit laisse tomber.
Laisse tomber, laisse tomber. Tu lui cèdes tout. Le tracteur, la remorque, il était pas comme ça avant. T'es en train de le pourrir. Ça me regarde pas, mais j'ai hâte de voir qu'un bon petit gars devienne une poule mouillée. Tu vas en faire une gonzesse.
Pascal ne deviendra jamais une poule mouillée. Pascal ne deviendra rien du tout. Jamais. Il est malade. Incurable. Et il va mourir.
Voilà, comment plomber l'ambiance.
C'est le Noël de Teddy Grognon, là. Hein.
Oui. Donc, c'est un film avec Bourville qu'on entend, un film de Terence Young de 1969, et ça s'intitule « L'arbre de Noël ». Un riche homme d'affaires se rapproche de son fils atteint de leucémie après une irradiation accidentelle et tente d'adoucir ces derniers mois. 950 000 entrées quand même pour ce film. Dernier extrait de ce blind test, encore un titre de film avec Noël.
Pourquoi le système d'alarme n'a pas fonctionné ?
Parce que je l'ai coupé, vous aviez oublié de le faire. Fallait bien que le Père Noël rentre chez nous sans réveiller personne.
Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre ?
C'est un passage secret. Personne ne le connaît. Même pas maman. C'était un truc entre papa et moi. Ici, il y a tous les jouets de papa. Et ceux du père de papa. Et de tous les ancêtres de papa. Et il y aura aussi tous mes jouets. Tu te rends compte ? Tout ce qu'il a dû porter sur son dos, le Père Noël. Rien que pour notre famille.
Ah. Alors, ça a été trouvé.
C'est 3615 Père Noël de René Manzor.
Film de 1990, un jeune garçon se retrouve né à nez avec un psychopathe déguisé en Père Noël quand le monde de l'enfance rencontre celui de l'horreur. C'est un film interdit aux moins de 16 ans, alors qu'il n'a pas eu vraiment de carrière en salle. Il a eu une sortie, ce qu'on appelle une sortie technique, c'est-à-dire il y a eu une salle à Paris qui l'a sorti. Voilà.
C'est un film de vidéoclub après, qui s'est rattrapé.
Qui s'est rattrapé. Et René Manzor est le frère de Francis Lalanne qui a produit ce film.
Et la musique était de l'autre frère de Francis Lalanne, c'est Jean-Félix Lalanne.
Eh bien, un film de famille.
Ça a noté qu'il n'a pas eu une belle exploitation en salle en France, mais ça a permis à Manzor d'aller aux États-Unis parce que ça, c'est le film qui lui a permis d'être reconnu par Lucas et Spielberg quand même.
Oui, puis il a reproché à Maman, j'ai raté l'avion, il l'a accusé le film de plagiat d'ailleurs. Voilà.
Alors, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux quand même. Il y a une petite année, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes qui peuvent être un peu dérangeantes.
Eh oui. Encore Noël, un réveillon qui réunit les membres d'une famille italo-américaine de classe moyenne. Nous parlons de Noël à Miller's Point.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Noël à Miller's Point est un drôle de film, insaisissable et sinueux, qui est à la fois d'une banalité confondante et d'une profonde originalité. Et oui. En effet, quoi de plus conventionnel que de filmer un repas de Noël d'une tribu italo-américaine de Long Island avant d'assister à la messe de minuit ? L'intrigue de ce portrait de la middle class américaine sur plusieurs générations, alors on n'a aucune colonne vertébrale d'un point de vue du récit. Dès le début, ça part dans tous les sens, aucun personnage n'est au centre d'une histoire ou d'enjeux dramatiques forts, un peu comme dans un roman graphique impressionniste, le cinéaste croque des toutes petites choses anodines, des regards, des gestes attentionnés, des attitudes insolites. Bref, rien de fracassant pour ceux qui attendent, surtout avant la dinde de Noël, un coup de force scénaristique, comme dans un cynique festin, une occasion de relancer la machine en réglant le linge sale en famille. Non, nous n'aurons rien de tout cela. Tout le monde est sympa, adorable, d'une bienveillance qui n'est même pas hypocrite. Alors pour un peu, on se croirait dans ces sempiternels films de Noël diffusés en boucle sur les chaînes de télé pendant les fêtes, dont les Américains sont friands.
Et je
still talking about selling, maybe. We've talked about it.
Nobody is selling Ma's house.
It's not gonna be easy.
Shut up, you don't know what you're talking about.
Déjà remarqué pour son teen movie décalé et poétique Am on Rye, Tyler Taormina, nouvelle coqueluche du ciné indé arty, s'empare du genre le plus cucu du cinéma américain pour le transformer en un voyage poétique tendre et amusant autour d'un réveillon. On pense un peu à du Woody Allen ou du Wes Anderson, hélas sans la profondeur du premier et sans la rigueur du second. Seule l'ambiance compte dans cet exercice de style plein de charme, mais assez gratuit, qui finit quand même par tourner en rond. Heureusement, l'échappée belle des jeunes dans une deuxième partie plus enlevée, parfois proche de petits classiques oubliés comme Nuit de folie de Chris Columbus, ravive l'intérêt de Noël à Miller's Point, petit objet filmique anodin, expérimental et un peu vain, mais plutôt agréable car très bien photographié et cadré.
Et ce film est en salle depuis le 11 décembre. Allez, on fait vite avec un film produit par Martin Scorsese, c'est un documentaire Beatles 64 qui revient sur la première tournée des Beatles aux États-Unis.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
3 ans après l'exceptionnel documentaire Get Back de Peter Jackson qui revenait déjà sur Disney+, sur les Beatles en restaurant en très haute résolution et de manière spectaculaire des images d'archives un peu fatiguées, mais voici Beatles 64, un documentaire de David Tedeschi, produit par Martin Scorsese qui revient sur l'arrivée des Beatles en Amérique. Leur participation historique au Ed Sullivan Show en direct à la télévision le 9 février 64 et bien évidemment le raz-de-marée que cela a provoqué. Alors ici, pas de nouveaux plans créés à partir des anciens, David Tedeschi étant un réalisateur plus classique que Peter Jackson, mais cela ne veut pas dire qu'il est un novice en la matière, puisqu'il a été le monteur de Shine a Light, le film sur les Rolling Stones de Martin Scorsese. Alors il utilise des plans tournés par Albert et David Maley, les légendaires documentaristes derrière Salesman, pour nous replonger dans ce que les Beatles ont pu représenter et ont su refléter des espoirs, attentes, comportements et modes de pensée sociétaux des Américains au lendemain de la mort de Kennedy et en pleine division de ce qui concerne les droits sociaux ou la libération sexuelle.
How you doing, Ringo?
I'm all right.
We were just like,
we're in America. America.
It's great being here in New York. Okay.
Alors c'est très amusant de regarder Beatles 64, car les plus cinéphiles d'entre vous l'auront en quelque sorte déjà vu. Si vous êtes familier du cinéma de Robert Zemeckis, il avait consacré son tout premier film, et déjà excellent, I Wanna Hold Your Hand ou Crazy Day chez nous, allez savoir pourquoi, à cette Beatles mania qui s'emparait de l'Amérique le jour de leur représentation au Ed Sullivan Show. Alors Zemeckis avait utilisé les mêmes images des frères Maisley pour son générique, qui avait tenté de cristalliser la fascination des Américains pour les Fab Four, et avait mis en scène des moments qui semblent être tout droit sortis du documentaire. Alors Zemeckis scrutera son pays et prendra son pouls tout au long de sa filmographie, reviendra sur l'impact et l'importance du groupe en faisant apparaître Tom Hanks à côté de John Lennon dans Forrest Gump, ou encore dans le très récent Here, où l'un des événements importants de la décennie des 60s, il a découvert en direct à la télévision des Beatles jouant au Ed Sullivan Show, tel un clin d'œil à sa propre filmographie, mais aussi et surtout à son statut d'Américain bouleversé par les petits gars de Liverpool, auteur d'une véritable révolution culturel mondial. Beatles 64 tombe à point nommé pour appeler tout ça aux jeunes générations.
Et donc cette Beatlesmania est visible sur la plateforme Disney+.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, vous aurez chacun un film.
Documentaire, l'hallucinant au cœur des volcans de Werner Herzog.
Et puis toi Guillaume, tu quittes Noël.
Oui, moi je vais rejoindre la rivière des sens.
Et toi, direction ?
Pour ma part, je reste en tout cas dans ce qui a été projeté à Cannes avec Au Canada.
À la semaine prochaine.
This is Cinerama.